Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Ouais. Ok. Je propose de prier avant de commencer. Notre Père, merci pour ta parole que nous pouvons partager. Nous te prions que par elle tu parles à nos cœurs, que tu changes nos vies à ta gloire. Vienne à mon secours pour parler comme il faut avec droiture et avec amour. Je le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons continuer notre série de messages sur les sept lettres de l'Apocalypse que le Seigneur Jésus a adressées à sept églises d'Asie. Et nous en arrivons au troisième de ces messages qui est adressé à l'église de Pergame. Alors aussi, je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire tout le chapitre 1 et les versets 12 à 17 du chapitre 2. Apocalypse chapitre 1 et chapitre 2, versets 12 à 17. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Verset 12, du chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La dernière fois, nous avions vu la lettre que le Seigneur adresse à l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne, comme l'église de Pergame que nous voyons aujourd'hui, elle n'apparaît qu'ici, dans toute la Bible, elle n'apparaît que dans l'Apocalypse. On ne sait donc pas qui l'a fondée, ni à quelle époque. On sait simplement qu'on a, dans ce passage, un aperçu de son histoire. Pergame, c'était une ville qui était relativement grande, mais qui n'était pas non plus d'une importance capitale. Mais elle était surtout le théâtre d'un affrontement spirituel particulièrement intense. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, commence par lui dire, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Aux autres églises, le Seigneur, il a dit en général, « Je connais tes œuvres, ce que tu fais, ton comportement, l'état de ton cœur. » Mais pour Pergame, le Seigneur relève quelque chose qui est particulièrement important dans ce que vit l'Église, c'est qu'à Pergame se trouve le trône de Satan. Et même si ça peut, quelque part, nous étonner, il y a une Église là où se trouve le trône de Satan. Alors on peut s'interroger et se demander ce que ça veut dire, le trône de Satan. En cherchant un peu, on peut trouver deux éléments importants dans l'histoire de cette cité. D'une part, la ville de Pergame, elle abritait un temple païen, le temple du dieu Esculape, et ce dieu était symbolisé par un serpent. On sait que le diable a pris la forme d'un serpent quand il a voulu tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et on sait aussi qu'il est appelé dans l'Apocalypse le serpent ancien. Et Pergame, c'était aussi une ville qui était sous la domination des empereurs romains. Et à cette époque, les empereurs étaient vénérés comme des dieux dans tout l'Empire. Et à cette époque, les chrétiens particulièrement considéraient le culte de l'empereur comme quelque chose de particulièrement inspiré par le diable, satanique. Donc il y a au moins deux raisons différentes qui font que à Pergame, c'est le centre d'un lieu d'idolâtrie particulier. On adore un homme qui a été élevé au rang de Dieu et on adore un Dieu serpent qui rappelle Satan dans cette ville. C'est pour cela qu'à Pergame, le Seigneur dit que se trouve le trône de Satan. Ça veut dire que dans cette ville, Satan règne sur ses habitants. Il a sur eux une emprise particulièrement forte. Et on peut s'imaginer que ceux qui se convertissaient des idoles à Dieu, ils devaient faire vraiment une volte-face complète dans leurs habitudes de vie et puis dans leur fréquentation aussi. Et pour nous, il y a un enseignement ici. Parce que si Satan régnait à Pergame, on sait aussi qu'il règne dans ce monde. L'Écriture nous enseigne que par nature, l'homme est fils du diable. Ça avait particulièrement choqué les pharisiens qui écoutaient Jésus. Et dans Jean 8, on voit ce dialogue entre les pharisiens et Jésus, les pharisiens qui se croient fils d'Abraham et fils de Dieu, et Jésus qui leur répond que s'ils étaient enfants d'Abraham, ils feraient les œuvres d'Abraham. Et s'ils étaient fils de Dieu, ils aimeraient celui que Dieu a envoyé. Mais lorsque l'homme suit les penchants de son propre cœur, de sa nature propre, il accomplit les désirs du malin. Et il déteste ce qui vient de Dieu. Ça, c'est l'état naturel de nos cœurs. Alors, c'est pas étonnant que le monde marche, comme on peut le lire dans Éphésiens 2, 2, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable. Mais celui qui s'est donné à Jésus, lui, fonctionne d'une manière totalement différente. Il n'a plus le diable pour maître, il a renoncé à Satan et à ses œuvres. Et c'est le Fils de Dieu qui est devenu son maître. Et comme à Pergame, il y avait une église chrétienne qui tenait bon là où Satan a sa demeure. Dans notre monde qui est corrompu et gouverné par Satan, il y a aussi, grâce à Dieu, des églises qui tiennent bon. Le Seigneur dit « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » C'est ce qu'il dit à l'église de Pergame. « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Et si le Seigneur fait cette remarque, c'est peut-être qu'à Pergame, les tentations, elles devaient être grandes de faire marche arrière, de rétrograder, de tout abandonner, d'abandonner la foi. Comme j'ai dit, il devait y avoir un combat spirituel vraiment très intense dans cette ville, entre ses habitants et ceux qui s'étaient convertis. Parce que quand on se convertit au Seigneur, on abandonne les idoles, et on doit abandonner toutes les idoles, pas seulement celles qui sont faciles à lâcher. Tout ce à quoi notre cœur s'accroche et qui n'est pas Dieu doit être abandonné. Quand on est sauvé par le Seigneur, on s'engage à son service. Et l'Écriture nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce qui veut dire que les habitants de Pergame ne pouvaient plus servir les dieux païens, l'empereur et le Seigneur Jésus en même temps. Parce qu'on ne peut pas avoir deux emplois à temps plein en même temps. Sinon, on frustrerait forcément l'un des deux employeurs. Alors, je parlais il y a un instant de la tentation pour les chrétiens de Pergame de rétrograder. Et je trouve que cette expression, est intéressante, même si elle ne se trouve pas dans la Bible, parce qu'on l'emploie pour parler de personnes qu'on a vu un jour s'engager pour le Seigneur et qui, par la suite, se sont retournées, ont fait marche arrière. On les a vues toutes abandonner. Et rétrograder, c'est intéressant parce que quand on conduit, on va adopter différentes vitesses en fonction de la route qu'on emprunte. Et quand la conduite devient un petit peu plus difficile ou qu'il y a des obstacles sur la route, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit et on rétrograde. On doit rétrograder, réduire notre vitesse pour éviter les dangers. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il m'est arrivé un jour de conduire un véhicule qui était particulièrement lourd, un minibus, sur une petite route de campagne, je m'étais perdu, et cette route grimpait beaucoup. Je m'étais lancé sur la route sans vraiment faire attention, et arrivé à mi-côte, le moteur a commencé à peiner, j'avais du mal à avancer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rétrogradé un petit peu pour essayer de reprendre de la vitesse, mais le moteur a continué à ralentir et à avoir de plus en plus de mal à avancer. Alors j'ai eu peur et je me suis arrêté. Et là, ça a été fatal. Absolument fatal. Parce que la seule option que j'avais, c'était de me laisser partir en marche arrière. Et c'est le danger lorsqu'on rétrograde spirituellement dans la vie chrétienne. On commence par ralentir, à diminuer nos exigences, à revoir nos exigences à la baisse en matière de foi et de sainteté. Et finalement, on ralentit tellement sur le chemin qui mène au Seigneur qu'on n'arrive plus à continuer. Et que la solution la plus facile qui nous reste, c'est se laisser aller. Et dans la vie chrétienne, quand on n'avance pas, on recule. L'église de Pergame, elle restait quand même fidèle au Seigneur. Malgré ses tentations, elle restait fidèle. Le Seigneur lui dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et c'est un compliment que fait le Seigneur à cette église. Mais comme on l'a vu, il se passait des choses difficiles, très difficiles à Pergame. Et je vous propose d'imaginer un instant ce qui devait se passer dans la vie d'un nouveau converti dans cette ville. Avant, il avait une vie de famille harmonieuse. Tout le monde dans sa famille reconnaissait que la domination des Romains avait apporté un certain confort, de la sécurité. Cette personne, elle avait aussi une vie sociale épanouie, elle pouvait participer aux fêtes de la ville, au culte du dieu de la ville aussi, et faire la fête avec tout le monde. Elle devait avoir aussi un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais cette personne a récemment rencontré un chrétien qui lui a parlé de Jésus. Alors, elle s'est convertie, elle a donné sa vie au Seigneur, et maintenant, sa vie, elle a tout changé. Parce que elle a été convaincue et sa vie de famille, d'un seul coup, elle n'est plus ce qu'elle était. Il n'y a plus cette harmonie qu'il pouvait y avoir avant parce que sa femme, ses enfants se demandent pourquoi il a tant changé. Et le confort que lui apportait l'Empire romain, ça lui semble soudain quelque chose de peu de valeur, peut-être même impur, souillé. Sa vie sociale, elle est réduite à rien parce qu'il a cessé d'aller au fait de l'Empire, où on adore l'Empereur. Il a cessé de se rendre au culte du dieu païen. Et son entourage alors vient lui demander ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il a tant changé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alors, le chrétien leur explique qu'il a connu Jésus et que ces choses qui à eux leur apparaissent comme normales, lui, il les tient maintenant pour souillées. Alors ils vont tenter de le persuader, de renoncer à sa foi. Et comme il tient ferme, ils en viennent aux menaces. Ça ne fait qu'encourager le chrétien qui persévère dans son témoignage à parler de Jésus pour essayer de les amener à la foi. Et comme vraiment il ne cède pas, sa famille, son entourage vont le livrer au juge, le dénoncer en disant qu'il a insulté la nation, leur coutume, leur Dieu, qui représente un danger. Rapidement, le chrétien est condamné et mis à mort. Et on pourrait très bien imaginer que cette histoire, c'est l'histoire d'Antipas, celui que le Seigneur appelle le témoin fidèle. On ne connaît pas la vraie histoire de cet homme. Mais on sait qu'il est resté fidèle au Seigneur, jusqu'au bout, même jusqu'à la mort. On sait que lui a tenu ferme, et on sait aussi que son assemblée a tenu ferme. Et ça m'a fait penser à cette phrase de l'apôtre Paul qu'on connaît bien, en Galates 2:20. « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si je vis maintenant dans la chair, c'est notre cas, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et toute l'église de Pergame, malgré la persécution, malgré les difficultés, elle restait fermement ancrée dans cette vérité essentielle de la vie chrétienne. Elle y était attachée parce que c'était une promesse du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Il a prouvé son amour, on peut lire ça dans Romains 5:8. Et Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À Pergame, il y avait des difficultés, il y avait de la tristesse, il y avait certainement aussi de la peur. Mais l'église de Pergame avait décidé de tenir bon et de s'attacher coûte que coûte à la promesse du Seigneur qui a dit qu'il aime son église. C'est important de relever que cette église, elle reste fidèle au Seigneur parce que le Seigneur lui fait quand même un reproche. Il dit à cette église, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. L'Église était vraiment, fermement, véritablement attachée au Seigneur, mais il y avait un problème dans cette Église. Il y avait une fausse doctrine qui commençait à se répandre parmi ses membres, et le Seigneur la met en lumière pour qu'elle soit dévoilée, dénoncée, et qu'elle ne se répande pas davantage dans l'Assemblée. Et pour comprendre de quoi il est question, on doit remonter dans le temps, à l'époque où Israël était encore au désert. Après sa sortie d'Égypte, les peuples qui entouraient l'Égypte avaient rapidement entendu parler de ce peuple très nombreux qui était sorti d'Égypte, qui avait traversé la mer Rouge par un miracle de Dieu, et la mer Rouge s'était refermée sur les armées égyptiennes. Et toutes ces nations, elles étaient dans la crainte. Elles étaient dans la crainte parce que le peuple d'Israël était très nombreux. On estime à peu près à 2 millions de personnes. Et toutes ces personnes, tout le peuple d'Israël aurait pu conquérir leur nation. Et le roi de Moab, Balak en particulier, a tellement eu peur qu'il a décidé d'aller attaquer Israël, mais avant, il voulait qu'Israël soit faible. Et pour ça, il a fait appel à Balaam. Alors l'Écriture nous dit que Balaam est un prophète, mais ce n'est pas un prophète de l'Éternel. C'est plus un médium ou un enchanteur. Et Balak fait appel à Balaam pour maudire Israël, pour l'affaiblir et le vaincre. Mais le Seigneur, et ça c'est formidable, le Seigneur ne permet pas qu'il y ait une seule parole qui soit prononcée contre son peuple. Israël n'avait aucune conscience de la menace qui pesait sur lui, mais Dieu veillait. Et c'est un encouragement pour nous à nous rendre compte que parfois nous n'avons aucune conscience des dangers que l'on peut courir, mais Dieu veille sur nous, comme il a veillé sur Israël. Et donc Balaam n'a pas pu prononcer une seule parole, une seule malédiction. Et à chaque fois que Balak s'attendait à entendre de mauvaises paroles sortir de la bouche du prophète, c'était au contraire des paroles de bénédiction qui étaient prononcées. Et Balaam a béni Israël à plusieurs reprises parce que Dieu ne désirait pas maudire son peuple. Tout cet épisode de l'histoire d'Israël, on le retrouve dans le livre des Nombres, dans les chapitres 23 à 25. Et j'ai relevé ce passage dans le chapitre 23, les versets 20 à 21, où Balaam, le prophète, dit « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. » Dieu n'avait pas de reproche à faire à son peuple. Pas d'iniquité, pas d'injustice. Il n'y avait aucune raison que Dieu s'en prenne à lui. Mais Balak, le roi de Moab, n'avait pas dit son dernier mot. Et on sait qu'il a encore cherché à affaiblir Israël. Et c'est Balaam, d'ailleurs, le prophète, qui a trouvé le moyen d'y parvenir. Et pour ça, il s'est servi des paroles que le Seigneur lui avait révélées. Puisque Dieu n'apercevait aucune iniquité, aucune injustice parmi son peuple, Balaam a décidé de faire pécher le peuple pour l'affaiblir et pour que Dieu le châtie. Alors il a dit à Balak, le roi de Moab, d'envoyer de belles jeunes filles pour séduire le peuple d'Israël, pour qu'ils couchent avec elles et qu'ils aillent adorer les dieux étrangers. Et ça a marché. On lit dans Nombre 25, versets 1 à 2, que le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Ils se sont laissés séduire, et c'est dramatique, mais ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel chrétien. La parole nous avertit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La conséquence, c'est que le peuple n'avait plus la pleine faveur de Dieu. Ça restait le peuple élu de Dieu, mais il n'avait plus sa pleine faveur. Et si un ennemi s'était présenté pour combattre, Dieu n'aurait pas pu défendre un peuple coupable. C'est un peu comme devant un tribunal, quand il y a un homme qui est accusé d'un crime, la meilleure défense que va trouver son avocat, c'est sa conduite, si c'est un homme irréprochable, qui se conduit bien. Mais si celui qui est accusé se comporte mal, s'il va se saouler tous les jours, s'il se fait arrêter par la police, s'il frappe sa femme et ses enfants, son avocat va lui dire qu'il est juste indéfendable. Il ne pourra pas lui éviter la condamnation. Et c'est une doctrine semblable à celle de Balaam qui courait dans l'église de Pergame. Le Seigneur l'appelle la doctrine des Nicolaïtes. On ne sait pas exactement qui étaient ces Nicolaïtes. Il y a certaines traditions qui remontent jusqu'au temps des apôtres et qui attribuent cette erreur doctrinale à l'un des sept diacres que l'on voit dans le livre des Actes, qui s'appelait Nicolas. On raconte qu'il était marié à une femme d'une très grande beauté et qu'il en était particulièrement jaloux, et qu'un jour les apôtres lui ont fait le reproche de sa jalousie. Alors pour s'en défendre, il aurait offert sa femme à qui la voudrait. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a beaucoup d'autres explications qui ont été formulées à propos du nicolaïsme, et il est, je crois, impossible de savoir laquelle est parfaitement vraie. Mais ce qui est remarquable, c'est que toutes ces explications ont un point en commun. À chaque fois, il s'agit de libertinage sexuel et d'idolâtrie. À chaque fois. À chaque fois, on voit dans les explications par rapport au nicolaïsme des problèmes d'ordre sexuel et une adoration qui est pervertie. Parce que très souvent, la débauche entraîne l'idolâtrie. Et c'est vrai que dans l'Église aussi, on voit se répandre de plus en plus de fausses doctrines, en particulier sur ces points précis. Le malin, il ne faut pas se faire d'illusions, il connaît parfaitement nos faiblesses. Et il sait très bien que les deux domaines dans lesquels nous sommes les plus fragiles, les plus vulnérables, ce sont les tentations sexuelles et l'adoration. À Pergame, il semble que certaines personnes converties couchaient avec des non-chrétiens et que cela les entraînait à partager le culte idolâtre de leur partenaire et qu'ils n'y voyaient aucun mal. Et qu'ils faisaient ça aussi pour maintenir la paix dans le foyer. Alors les chrétiens allaient le dimanche à l'église et la semaine au temple païen. Ils partageaient le repas des frères et sœurs le dimanche et ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles dans la semaine. Et il finissait par clocher des deux côtés, comme le dit Élie. C'est-à-dire qu'il sautait un coup d'un pied sur l'autre, sans être jamais à 100% d'un côté ou de l'autre. Jamais à 100% pour Dieu, jamais à 100% contre Dieu. Mais le gros problème, c'est qu'ils commençaient à replonger dans leurs anciennes pratiques. Quand Balaam a voulu affaiblir Israël, il s'est servi de la débauche sexuelle pour les entraîner à la débauche spirituelle. Et au contact des femmes du pays de Moab, les Israélites ont commencé à s'intéresser à leur Dieu et à leur culte. Et finalement, ils se sont intéressés, ils se sont laissés convaincre d'y assister, peut-être d'abord de loin, et puis finalement, ils ont mis un pied dedans, et finalement, ils se sont prosternés devant ces dieux. Balaam, il a réussi à faire rentrer les choses du monde au sein du peuple de Dieu. Et Israël s'est mis à penser comme Moab. Il a cessé de penser comme Dieu. Pourtant, le Seigneur, il avait donné des ordonnances très claires à ce sujet. Et si le peuple avait continué à penser comme Dieu, il ne se serait pas détourné. Mais il a cédé à cette tentation qui se présentait. Et le malin aussi essaye de faire rentrer les pensées du monde dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ, elle peut être exposée à des tentations semblables à celles qu'a connues Israël. D'abord, par le mariage en dehors du peuple de Dieu. Je précise qu'il s'agit bien de personnes qui, une fois converties, décideraient de se marier avec un non-converti et pas des personnes qui se convertissent après leur mariage. Il est clair dans la parole de Dieu qu'un chrétien ne doit pas se marier avec quelqu'un qui est encore ennemi de Dieu, parce que c'est faire une alliance avec un ennemi. Il y a aussi toutes les autres formes d'infidélité, de débauche, les relations virtuelles sur Internet, la pornographie. Tout ça, ça crée des liens spirituels très forts. Il est très difficile de se séparer. Et il y a encore toutes les alliances que les chrétiens peuvent contracter dans leur vie quotidienne, de mauvaises fréquentations, une amitié qui éloigne de Dieu, un contrat de travail pour un emploi pas très honnête. Tout ça, c'est des liens qui peuvent nous attirer loin de Dieu. Et souvent, quand on se rend coupable, on cherche à se justifier. Et généralement, on commence par accuser Dieu. C'est parce qu'il ne m'a pas donné de conjoint que je suis allé voir dans le monde. Ce n'est pas de ma faute s'il y a de la pornographie sur Internet. C'est le seul travail que j'ai trouvé. Et lorsqu'on est mis face à l'évidence et qu'on est confronté à la parole de Dieu, on finit par la relativiser pour excuser son péché. Oh, il faut bien vivre avec son temps. De nos jours, on n'est plus obligé de se marier. L'important, c'est de s'aimer. Peu importe le reste. Dieu ne va pas me condamner pour ça. Et finalement, tout ce qui est de nature à nous attirer loin de Dieu représente un danger. Ça affaiblit l'Église. Comment est-ce qu'elle pourra se défendre si elle laisse la porte ouverte à l'ennemi? Et comment le Seigneur pourra la défendre si elle est coupable d'infidélité? Il y a une partie du peuple d'Israël qui a fini par tomber, vaincue. Alors rappelons-nous que l'Église de Pergame, elle était fidèle au Seigneur, mais qu'il y avait de graves manquements, de graves lacunes. Il y avait des enseignements qui avaient été mis de côté et peut-être même rejetés volontairement, et ça avait plongé une partie de l'assemblée dans le péché. Je voudrais souligner ce que dit le Seigneur à propos de ces pratiques. Il les hait. Le mot est fort. Ça exprime pas seulement du dégoût, la répugnance, mais c'est un rejet total, complet du péché. Une haine parfaite. Seigneur Jésus, il ne dit pas à son Église, « Ah, tu sais, j'aime pas tellement ça. Est-ce que tu pourrais changer, s'il te plaît ?» Non, il appelle l'Église à s'en repentir. Il dit, « Repends-toi donc. » Et le mot grec de la repentance, littéralement, il veut dire « Transforme ta pensée. Change de point de vue. » C'est vrai qu'on a parfois besoin d'être rappelé à l'ordre, et que le Seigneur nous dise que notre façon de penser n'est pas la bonne et qu'elle ne correspond pas à sa façon de penser à lui. Alors est-ce que l'Église de Pergame aurait oublié que Dieu est saint? Est-ce que nous oublions que Dieu est saint? On peut être gêné que Jésus parle de haine, qu'il ressente de la haine, parce qu'on sait qu'il est amour. Mais quand il s'agit de péché, la position de Dieu est parfaitement claire. C'est un rejet total. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. On lit encore que c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il n'y a rien en Dieu qui tolère ou qui accepte le péché sous quelque forme que ce soit, parce qu'il est saint. Quand Ésaïe a vu le Seigneur dans son temple, on lit ça dans Ésaïe 6, il y avait des séraphins qui volaient autour du trône et qui disaient, qui criaient, « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors dans notre langage évangélique, on a un petit peu transformé l'expression et on parle du Dieu trois fois saint. En réalité, Dieu, il n'est pas trois fois saint, il est saint juste une fois, mais parfaitement. Et en hébreu, quand il y a un mot qui est répété comme ça, c'est pour montrer que c'est une valeur absolue, qu'il n'y a rien qui peut être comparé à ça. Dieu est saint, parfaitement saint, absolument saint. Et je ne sais pas vous, moi je suis toujours impressionné par les visions qu'ont pu avoir les prophètes. Il y a Ésaïe qui a eu cette vision, mais il y a aussi Daniel, ou Ézéchiel, ou même l'apôtre Jean. C'était des hommes consacrés à Dieu, mais à chaque fois qu'ils ont eu des visions du Seigneur, l'Écriture nous dit qu'ils ont été terrassés comme morts. Le Seigneur ne les avait pas touchés, n'avait rien fait de particulier, ils l'ont juste vu. Parce que la simple vision du Dieu saint a suffi à les coucher à terre. Et l'apôtre Jean, on l'a lu tout à l'heure, il était comme mort. Rappelons-nous que Dieu est le péché. Verbaïr. C'est pas simplement quelque chose qui lui déplaît ou qui le dérange. Et en parlant de ces hommes, ces prophètes qui ont vu le Seigneur, moi je me dis que quelque part on aimerait bien nous aussi voir le Seigneur. On se dit parfois que si on avait une vision comme celle-là, notre vie chrétienne, elle repartirait, on serait boosté dans notre foi, et c'est peut-être vrai. Des fois on soupire après la présence du Seigneur, comme David qui disait « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi ». Et pourtant, à Pergame, je pense qu'ils n'avaient pas très envie de voir le Seigneur là maintenant tout de suite. Parce que le Seigneur, il leur promet une visite. Il dit « Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi ». Si à Pergame, l'Église refusait de se repentir de ses fausses doctrines et de son idolâtrie, de sa débauche, le Seigneur promet une visite, promet de venir. C'est pas une visite de courtoisie, promet. Ça me fait penser à l'apôtre Paul, parce qu'à de multiples reprises, il a dû corriger des erreurs dans les églises qu'il avait fondées et qu'il visitait. Il a dû juger les péchés de personnes qui refusaient de se repentir. Et en particulier dans l'église de Corinthe, il a eu beaucoup de soucis. Et à un moment, il leur a aussi promis une visite. Dans 2 Corinthiens 13, versets 1 à 2, il les prévient et il leur dit « Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit. Et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. » C'est pas tendre. C'est pas la promesse d'une visite amicale. C'est la promesse d'une visite de correction. Et le Seigneur donne un avertissement à l'église de Pergame et à ses églises dans le monde. Il leur demande d'abandonner le péché, de corriger les erreurs. La demande reste patiente. Elle est toujours faite avec amour et tendresse, parce que Dieu ne prend aucun plaisir à châtier ses enfants. Dans Lamentations 3:33, on lit que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Et pourtant, quand c'est nécessaire, Dieu exerce la correction parce qu'il aime ses enfants et qu'il ne veut pas les voir emprunter un mauvais chemin. Il ne veut pas nous voir souffrir spirituellement. Il ne veut pas nous voir ruiner notre témoignage. Et si nous nous repentons, si nous venons à lui, en lui avouant notre misère spirituelle, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on est spirituellement misérable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On peut venir à Dieu, on peut venir et pleurer sur notre péché. C'est quelque chose que Dieu ne dédaigne pas, au contraire. Et non seulement il va écouter notre confession, mais il va la recevoir, il va nous pardonner, il va nous donner la possibilité de mettre en ordre notre situation. Alors que faire? Quelle doit être notre attitude lorsqu'on constate que notre vie n'est pas ou qu'elle n'est plus en accord avec Dieu? Quand le Seigneur promet cette visite de correction, il dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Le Seigneur, il promet de venir lui et de combattre les fausses doctrines avec l'épée de sa bouche, c'est-à-dire avec sa parole. Cette parole dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur Jésus-Christ nous appelle à nous conformer à sa parole, et cela dans tous les domaines de notre vie. Même si le monde tente d'influencer notre vie, nos actions, nos pensées, notre cœur, que la parole de Dieu, la Bible, puisse être notre seule source d'autorité. Dans l'Épître aux Romains, Paul encourage les croyants, il leur dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. D'abord, ne pas se conformer aux habitudes du monde. Ce n'est pas parce que le monde agit d'une manière, que tout le monde agit de cette manière, qu'on doit forcément être d'accord, même si ça paraît légitime. Ça nous paraît légitime de ressentir de la colère ou de la haine envers ceux qui nous font du mal, envers nos ennemis. Mais le Seigneur dit « Tu aimeras ton ennemi. » Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourtant, encore une fois, ça paraît légitime, c'est le sentiment naturel de notre cœur d'avoir à minima de la colère, de la haine envers ceux qui nous font du mal. Ça se réveille naturellement. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est la volonté de Dieu. Et Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Alors on pourrait être tenté de trouver un compromis et de se dire « Bon, ben, je vais juste les ignorer. Comme ça, au moins, je n'aurai pas de haine ni de colère. » Mais Jésus ne dit pas d'ignorer, il dit « Aimez vos ennemis ». Et c'est ça, se conformer à la parole de Dieu. C'est laisser ce que le Seigneur nous dit de laisser, la haine, et faire ce qu'il nous dit de faire, aimer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est lire la Bible, la parole de Dieu. C'est comprendre le cœur de Dieu, comprendre ses pensées, comprendre pourquoi il déteste le péché, comprendre comment il réagit face à certaines situations et comment il veut que nous, nous réagissions face à ces situations aussi. C'est se laisser façonner dans notre pensée, dans notre cœur, parce que Dieu dit. Alors, est-ce qu'on fait de la Bible l'autorité de notre vie, de toute notre vie? Est-ce qu'on accepte son autorité, même dans les domaines où notre vie demande à être transformée? Si Dieu vous appelle aujourd'hui à vous conformer à sa parole, ne résistez pas à sa voix. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a un verset qui est répété 3 fois sur la même page. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur, il désire nous encourager. Et comme dans chacune des lettres qu'il adresse à ces 7 églises, à la fin, il conclut avec une promesse qui est faite à ceux qui vaincront, c'est-à-dire à ceux qui vont écouter sa parole et qui vont la mettre en pratique. Et là, il dit, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. La manne, c'est la nourriture spirituelle envoyée du ciel, la nourriture miraculeuse que Dieu a donnée à son peuple inlassablement, fidèlement pendant 40 ans. Et si dans cette lettre, Jésus dit qu'il donnera de la manne cachée, c'est peut-être parce qu'il ne la révélera qu'à ceux qui obéissent et qui veulent se conformer à sa parole. Et ce caillou blanc avec un nom nouveau, c'est cette image de la pureté que nous donne le Seigneur, de la justice dont Jésus-Christ nous revêt. C'est aussi une identité nouvelle. Et celui qui était appelé débauché ou adultère ou idolâtre ou infidèle, il reçoit un nom nouveau de la part du Seigneur. Chrétien, enfant de Dieu, lavé, sanctifié, purifié, justifié. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de mettre sa parole en pratique, de nous conformer à elle et d'en faire la seule autorité de notre vie. Nous allons prier.